9 novembre. C'est fait. Mise est partie, Blanche est au couvent. En apprenant qu'elle allait entrer aux oiseaux, ma pauvre enfant ne m'a dit qu'un mot, un seul. « Oh, maman !» Ce mot, il y a 3 heures que je l'ai entendu et je l'ai toujours sur le cœur. Le tendre reproche inexprimé qu'il contenait me poursuit, me torture. « Oh, ma pauvre petite fille, que je ne vais pas voir ce soir dans son lit blanc, qui ne viendra pas demain matin offrir à mes lèvres ses joues fraîches comme une fleur, qui sanglote peut-être en ce moment, qui se lamente et qui m'accuse. Mais pourquoi donc ai-je fait cela? Oui, pourquoi? Qui m'y forçait? Ah, je ne me reconnais plus. Il y a maintenant en moi quelque chose qui n'est plus moi. Je voudrais pleurer, je souffre. Et il va falloir que je m'habille pour aller à l'opéra. Oui, dès ce soir. Et nous sommes de retour depuis 24 heures à peine, et je reviens du couvent où j'ai enfermé ma fille. Mais quoi, il y a un ballet où la Fazzolini y danse. Jacques a décidé que nous irions. Et je ne veux pas, moi, qu'il y aille seul. 25 novembre. Nous allons dans le monde ou au théâtre tous les soirs. Je suis parfois tentée de demander un peu de répit à Jacques, car pour supporter sans lassitude d'un pareil régime, il faut les grâces d'état de la 20e année. Et il y a beau jour qu'elle est loin de moi. Sans doute, si je disais à mon mari combien ces sorties quotidiennes me fatiguent, il m'en épargnerait quelques-unes. Mais une sorte de fausse honte me retient. Je n'ose pas lui avouer que cette vie m'épuise, et je feins, pour lui être agréable, d'y prendre autant de plaisir qu'il y en trouve lui-même. Il y a une chose qui me plairait bien plus, que dis-je, qui eût été ma joie, mon bonheur. J'avais fait un rêve bien cher, que je n'ai jamais avoué à personne. Il m'eût été doux d'avoir un enfant de Jacques. J'aurais aimé à souffrir, à m'exposer pour le lui donner. Le regard de gratitude dont il n'eût pas pu, je pense, me refuser l'aumône, m'eût payé au centuple des douleurs endurées et du péril affronté. Et puis, je n'ose me le dire à moi-même, tant cette idée est folle. J'eusse été fière, oh, si fière. Il me semble que cette glorieuse fécondité m'eût vengée de ceux et de celles qui, déjà, je le devine, je le sens, vont disant que je suis une vieille femme. Cela m'eût rajeuni d'être mère. Devenir père l'eût mûri, lui, sans doute. Et l'équilibre de nos âges se fût ainsi rétabli. Oh, ces jeunes femmes qui se penchent en souriant sur un berceau d'où sortent 2 petites mains tendues vers elles. Toutes les souffrances, toutes les tortures, tous les déchirements de ma chair pour que je puisse montrer à mon mari 2 petites mains comme celles-là. 26 novembre. Aujourd'hui, j'ai laissé échapper mon secret. J'ai confessé à Jacques que je mourais d'envie d'avoir un bébé. Il s'est mis à rire. Que ce rire m'a fait mal. 18 décembre. Était-ce donc sous l'empire de quelques pressentiments que je lui ai, l'autre jour, confié mon désir d'être mère? Je n'ose croire encore. Un tel bonheur serait trop grand. Et pourtant, si je ne me trompais pas, si cela était. Oh, que je le vois, le petit être né de lui et de moi! Que je le remette entre ses mains en lui disant « Tiens, prends, le voilà celui que j'attendais, que ton cœur appelait tout bas. C'est moi qui te le donne, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, après, que je meure s'il le faut. » 20 décembre. Béni soit Dieu, je ne m'étais pas trompée. Jacques se moquait, me traitait de folle, mais je savais bien, moi. Le docteur dit qu'il n'y a pas de doute. C'est pour le mois de juillet. Juillet, le mois des beaux fruits, des blés dorés. Moi aussi, je donnerai ma moisson et ma fleur. 8 janvier 1887. Quel délicieux commencement d'année! Je ris, je pleure, je suis heureuse. Je me rappelle le temps où j'étais petite et où, la veille du 25 décembre, je mettais mon soulier dans la cheminée. Quel merveilleux cadeau m'a fait cette fois le bon petit Noël! À me sentir mère de nouveau, je redeviens enfant. Quel épanouissement divin de tout mon être! Il me semble que je dois marcher comme les saints dans un nimbe. C'est ma joie, c'est mon orgueil, c'est mon bonheur qui rayonne hors de moi. Il paraît que j'embellis. Tout à l'heure, Jacques m'a dit « Vous êtes étonnante, ma chère, votre état vous sied à merveille. Je ne vous avais pas vue aussi en beauté depuis 2 ans. » Et il m'a jeté un de ses regards courts et brûlants. « Comment ose-t-il encore me regarder ainsi ?» 2 ans. C'est vrai, j'oubliais. Est-il donc possible que j'aie été autre chose que sa femme? Je rougis d'y penser. Pourquoi m'a-t-il rappelé cela dont je ne veux plus, moi, me souvenir? Comme c'est peu généreux! Il ne comprend donc pas ce qui se passe en moi et que je voudrais n'avoir jamais commis une action coupable, me sentir une âme pure, immaculée, comme celle de la Vierge, afin d'être plus digne du petit ange que je porte? S'il ne devine pas cela, c'est donc qu'il ne me respecte pas comme une épouse, que je reste pour lui ça. Oh, l'affreux mot qui me brûle comme un fer rouge! Oui, c'est bien cela. Il faut que je m'y résigne. Je ne suis pas, je ne serai jamais, sans doute, aux yeux de mon mari, la femme sacrée entre toutes les femmes. Et certes, je croyais mériter de l'être, maintenant surtout que l'auguste maternité m'a touchée. 9 janvier. 2 ans, a-t-il dit hier. C'est bien long pour un homme comme lui de rester 2 ans fidèle. 20 janvier. Ces sorties du soir me fatiguaient trop. J'y renonçais. Je n'ai plus le droit maintenant de me fatiguer. Je me dois tout entière, corps, âme, santé. Toute dépense inutile de moi-même est un larcin que je fais à quelqu'un d'exigeant qui veut que je ne vive plus que pour lui. Sauf pour aller voir ma fille au couvent, je ne mets plus guère le pied dehors. Jacques m'a dit « C'est absurde de vous cloîtrer ainsi. Vous devez périr d'ennui à demeurer seule pendant des heures. » Il croit que je suis seule. Au lieu de me plaindre et de me gronder, pourquoi ne reste-t-il pas un peu à la maison? C'est ma faute aussi. Il y a 3 semaines à peu près, mon mari a voulu faire l'effort de passer une soirée auprès de moi. À 10 heures, il avait l'air de s'ennuyer si profondément que je lui ai conseillé moi-même d'aller fumer un cigare au cercle. Cela n'était pas bien dangereux puisqu'il ne touche plus à une carte. Ce soir-là, il est rentré à 00h. Mais le lendemain, il est sorti plus tôt et revenu plus tard. Maintenant, il me quitte aussitôt après dîner. Je reste sur ma chaise longue à tricoter des petites brassières de laine blanche que j'orne d'une profusion de nœuds bleus, car c'est un fils, je le sens bien. Et pendant ce temps-là, mon mari, le père, promène je ne sais où le gardénien qui fleurit la boutonnière de son habit. J'ai eu tort de lui laisser prendre l'habitude de sortir ainsi sans moi. Mais quand je lui ai proposé de le faire, pouvais-je croire qu'il aurait la cruauté d'accepter ? 2 février. Sans doute, il est heureux que Blanche soit au couvent. Sa présence à la maison en ce moment me gênerait. Je suis presque intimidée devant elle quand je vais la voir aux oiseaux. J'ai des envies, tantôt de baisser les yeux sur son regard, tantôt de la prendre dans mes bras, de l'embrasser avec frénésie, comme si j'avais quelque chose à me faire pardonner par cet enfant. Je m'interroge, je me consulte avec une sorte d'anxiété, afin de savoir si l'amour que je sens déjà pour l'autre, pour celui qui n'est pas encore, ne grandit point aux dépens de la tendresse que j'ai pour Blanche. Non, va, ma fille, je ne t'ai rien volé, j'ai le cœur assez large pour vous deux. J'aurais pourtant besoin qu'on me tînt un peu compagnie. Je ne vais pas bien, je suis nerveuse, agitée, inquiète. Je ne sais ce que fait Jacques, je ne le vois plus qu'au moment des repas, et cela me tue. Ce n'est plus à mon enfant, c'est à lui que je pense durant les longues heures de ma réclusion solitaire. Je me dis, où est-il à présent? À qui parle-t-il? Quelle femme regarde-t-il? Je ne puis pas m'endormir avant que je l'aie entendu rentrer. Et à quelles heures rentre-t-il maintenant? Le matin, tandis que je dors d'un sommeil lourd, hanté de rêves, il va se promener à cheval au bois, ou bien jouer à la paume et puis prendre sa douche. Il revient vers 11 heures. Nous nous mettons à table, il mange comme un loup, des viandes rôties, sans pain ni légumes, car mon mari prend soin de la sveltesse de sa taille, tandis que moi, je n'ose plus seulement porter un corset. D'ailleurs, je n'en ai plus de taille, et je m'en moque. Tandis qu'il déjeune, en lisant son journal, le teint frais, reposé, l'air content de vivre, moi qui n'ai pas faim, bien que je dusse avoir de l'appétit pour deux, je le contemple. Il me fait l'effet d'un bel animal, souple, puissant et cruel, d'un félin. J'en ai vu qui avait ses dents blanches, inégales et pointues, ses yeux clairs. Il a tant de force dans la mâchoire que les muscles qui la meuvent soulèvent, quand il mange, la peau de ses tempes. C'est un homme de proie. Je lui adresse 1000 questions sur l'emploi de sa soirée de la veille. Je tâche de le mettre en défaut, de me prouver à moi-même qu'il me cache quelque chose. Il me répond avec une imperturbable assurance. Et je plonge mes yeux dans ses yeux, je lui dis que je souffre, que je sens qu'il doit me tromper. Il sourit, il proteste, il jure que non. Mais que m'importent ces serments? Son regard est plein d'adultère. 10 février. Je n'y pouvais plus tenir. Malgré la défense du docteur, qui n'est pas content de moi et qui me répète sans cesse qu'il faut me ménager beaucoup si je veux conduire sans accident cette laborieuse grossesse jusqu'à terme, j'ai recommencé à sortir le soir. Il s'agit bien de ma santé, vraiment, quand la paix et la dignité de mon ménage, quand le bonheur de ma vie est en jeu. J'accompagne Jacques de nouveau dans le monde. J'observe l'attitude, l'air qu'il prend avec toutes les femmes, la façon dont il les aborde et dont il les quitte, ses regards, sa voix, son geste. S'il a, comme je le soupçonne, quelques flirts en train ou pique cela, je le saurai bientôt. Savoir ces choses-là, c'est moins cruel peut-être que de les appréhender. 21 février. J'étais préparée à cette douleur. Elle n'en a pas moins retenti jusqu'au fond même de mon être. J'ai trouvé, à demi brûlée, dans la cheminée de Jacques, une lettre de femme. De fille, devrais-je dire, car j'ai pu lire ces mots que la flamme, dégoûtée peut-être, n'avait pas touchés. Apporte-moi 100 louis. Et c'est pour une créature de cette sorte qu'il me trompe? Je lui ai montré le bout de papier infâme sans lui parler. Lui sais-je voulu que je n'aurais pas pu? Une souffrance sans nom m'étreignait à la gorge. Il a pâli, baissé la tête. Je voulais quitter la maison, aller cacher je ne sais où mon désespoir et ma honte, quand j'ai senti soudain quelque chose qui remuait dans mon flanc. C'était la première fois que le cher petit être bougeait. Pourquoi faut-il que ce soit le crime commis par celui qui l'a engendré, qui l'ait tiré de son sommeil? J'ai pris ce signe pour un avertissement venu d'en haut. Peut-être Dieu a-t-il voulu me faire entendre par là, qu'en se rappelant à moi, qu'il oubliait, l'innocent me demandait de pardonner au coupable. J'ai cédé à cette sollicitation mystérieuse et ne suis point parti. Une immense lassitude m'accable. Tous les ressorts qui mettaient mes membres en mouvement sont brisés. Il me semble que l'on doit être ainsi quand on est mort. Une douleur aiguë vient de me sillonner comme un éclair. Je ne puis plus écrire. 19 mars. Il paraît, c'est le docteur qui l'affirme, que cette fausse couche m'a mise pendant 48 heures entre la vie et la mort. Je me demande pourquoi c'est du côté de la vie que finalement j'ai penché. S'il ne me restait ma fille, je n'aurais que faire d'être au monde maintenant. Je me demande aussi, tout lien entre Jacques et moi se trouvant brisé par la trahison dont j'ai été victime et par la disparition du pauvre cher petit être qui nous rattachait encore l'un à l'autre, je me demande pourquoi je n'ai pas, dans l'intérêt même de ma dignité, pris le parti d'en venir à une séparation. Lâche cœur, ne serais-tu donc pas encore détaché de cet homme? 21 mars. Pendant que j'étais malade, nous n'avons pas échangé d'explications sur cette lettre dont la découverte a eu pour contre-coup la terrible crise qui a failli m'emporter il y a un mois et d'où je sors amaigri, pâle, faible, vieilli de 10 ans. Jacques m'a soigné avec un empressement où je ne puis m'empêcher de trouver, quelque indigné que je sois contre lui, la manifestation discrète d'un repentir dont je lui sais gré. Et tandis que je renais doucement à la vie, mon esprit se plonge en des méditations profondes. J'ai été si près de la mort que le goût m'est resté de penser à elle, comme à un pays qui n'est plus tout à fait inconnu, qu'on a entrevu et dont l'image flottante demeure dans votre esprit. Les marins, dont la tempête emporte le navire loin des routes suivies, doivent conserver ainsi le souvenir d'îles mystérieuses, vaguement aperçues en passant dans la brume. Je lis le plus beau des livres, L'Imitation. Comme celui qui l'a fait touche d'une main légère et sûre les pauvres âmes blessées. Comme il a dû aimer lui-même pour savoir bercer ainsi les peines de cœur et tourner au profit de l'amour divin les déceptions de ces misérables amours humaines dont il me fait si bien comprendre le néant. Je lis lentement, pieusement, ce livre des livres, et je sens que les bienfaisantes paroles se déposent comme un baume sur mon âme endolorie, qu'elles apaisent ces mouvements tumultueux, qu'elles y insinuent peu à peu je ne sais quelle douceur secrète de résignation. Je sens aussi que j'ai vécu trop loin de Dieu, que je n'aimais pas assez celui dont l'amour ne trompe pas. Je veux pratiquer désormais avec plus de ferveur. On me permet de sortir demain, j'irai porter un cierge à Notre-Dame des Victoires. 22 mars. Je voulais demander à la Sainte Vierge de me donner la persévérance dans le propos que j'ai formé de m'occuper avec plus de zèle de mon salut. Et c'est pour Jacques seulement que j'ai prié. J'ai supplié notre glorieuse mère d'éclairer des lumières de la religion l'âme païenne de mon mari. Je l'ai supplié aussi de ramener à moi le volage dont l'infidélité m'a percé le cœur. Et je m'aperçois bien maintenant que c'est là l'inestimable grâce que je désire surtout obtenir de son intercession. Est-ce donc encore un homme que je cherche quand je crois chercher Dieu? Ma piété ne serait-elle que le masque de mon amour? Et dans ces grands élans de foi auxquels je m'abandonnais délicieusement, ne faut-il voir que les transports déguisés d'une passion que je croyais domptée par l'épreuve même qu'elle vient de subir, et qui, pour ma honte, me posséderait encore tout entière? Qu'importe, après tout, quand la religion n'aurait que le mérite de vous donner l'illusion qu'on s'envole vers le ciel, alors que la terre vous tient toujours, il faudrait la bénir. Quoi de plus bienfaisant, en somme, que cette duperie, si c'en est vraiment une, ce que je ne tiens pas à savoir. Les saintes elles-mêmes, et de grandes saintes, sainte Madeleine, sainte Thérèse, le savaient-elles, et ont-elles cherché à s'en assurer? 23 mars. Et pardonnez-nous aux offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment ai-je pu répéter tant de fois ces paroles sans remarquer l'enseignement profond qu'elles contiennent? Oui, le ressentiment est impie. Le pardon seul est grand, saint, agréable à Dieu qui nous le prescrit envers autrui, par cela même qu'il le pratique à toute minute envers nous. D'ailleurs, la faute que Jacques a commise est-elle vraiment sans excuse? Peut-être n'y a-t-il eu là qu'un de ces entraînements passagers des sens que les hommes savent mal combattre, le jour où le devoir leur donne, habitués qu'ils sont à croire qu'un privilège de leur sexe les autorise à y céder sans remords. Mais ce n'est pas avec mon âme seule que j'aime mon mari, et si la sienne n'a pas eu de part à l'infidélité, cela ne suffit pas pour empêcher ma chair trahie de crier. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si j'ai le droit de reprocher à Jacques cette défaillance. Me suis-je donc toujours montré moi-même, sans reproche et sans faiblesse? Qui sait si le malheur qui me frappe n'est point l'expiation qu'une justice équitable dont les arrêts doivent me trouver humble et soumise, impose aujourd'hui à la femme oublieuse de son devoir que je me souviens avec horreur d'avoir été autrefois. 24 mars. Eh bien, m'a-t-il demandé, en revenant du couvent, où il était allé dire à Blanche que je me sentais trop faible aujourd'hui pour aller la voir moi-même. Les forces reviennent-elles? Vous sentez-vous mieux? J'ai annoncé à votre fille que, pendant ses vacances de Pâques, je vous emmenais toutes deux à Fontainebleau. 8 jours passés dans ce bon air achèveront de vous remettre sur pied. Cette sollicitude pour ma santé m'a touché. Sans doute, devinant le sentiment de gratitude que j'éprouvais, il a jugé l'occasion favorable à l'explication que nous n'avions pas encore eue. Et brusquement, sans que j'eusse fait la moindre allusion au douloureux incident qui a bouleversé ma vie, car je ne suis pas de ces femmes qui récriminent ou qui se plaignent tout haut, j'ai la pudeur de mes souffrances intimes comme de mes joies, il s'est mis à me parler de cette lettre, il m'a juré qu'elle lui avait été adressée par une personne autrefois connue de lui, mais qu'il ne voyait plus depuis 3 ans, et qu'il s'était autorisé du souvenir d'anciennes relations pour lui demander un service d'argent. Que ne m'a-t-il pas dit encore ? Qu'il ne m'avait jamais trompé, ni ne me tromperait jamais, qu'il n'aimait que moi, moi seul, que j'étais sa joie, sa passion, qu'il m'adorait comme au premier jour. Et il m'a prise dans ses bras avec tant de violence que cette étreinte m'a fait mal. Il a couvert de baisers brûlants mon visage, il a bu les larmes qui coulaient le long de mes joues. J'avais fermé les yeux afin de mieux savourer le son de cette voix si chère, ces protestations de tendresse qui réconfortaient ma pauvre âme abattue et meurtrie. Quelque chose en moi criait « Tu mens, tu mens, tu mens !» Et quelque chose en même temps disait « Continue, que j'entende encore ces serments, même s'ils sont mensongers. Parle toujours. Quand je t'écoute, il me semble que je crois à tout ce qui sort de ta bouche adorée et traîtresse. » Lorsque, à demi pâmé dans ses bras, brisé par l'émotion et aussi par la rudesse de ses baisers, pouvant à peine soutenir ma tête qui tombait en arrière, j'ai ouvert de nouveau les yeux. J'ai rencontré les siens qui me regardaient avec une expression de joie cruelle et de triomphe, comme doivent regarder ceux d'un lion quand il vient de saisir une proie et la tient pantelante sous sa griffe. Dieu, quel homme terrible est celui que j'aime, et comment ferais-je pour échapper à jamais à ses prises puissantes ? Et maintenant, je sens qu'il m'a reconquise toute, que je suis redevenue sa chose, la cire molle qu'il pétrit à son gré dans ses doigts de fer, la créature misérable qu'il enivre et torture alternativement, selon que la fantaisie du moment lui suggère d'essayer sur elle ce qu'il peut pour se faire aimer ou ce qu'il peut pour faire souffrir. Je ne sais plus s'il dit vrai ou s'il ment, s'il m'a trompé ou non, s'il m'aime encore ou si je ne suis pour lui qu'un jouet que le caprice de ses sens prendra un jour et rejettera dédaigneusement le lendemain. Et je ne veux rien savoir, rien, rien. Qu'on me laisse douter et me dire tantôt que je suis la plus heureuse, tantôt que je suis la plus infortunée des femmes. Se peut-il qu'on soit à ses ennemis de son propre repos pour ne pas préférer l'incertitude, si pénible qu'on la suppose, à l'affreux supplice de connaître la vérité, quand cette vérité, c'est l'irréparable. Qu'on me laisse en paix. Je demande à ne plus penser. Je voudrais dormir, et d'un sommeil sans rêve. Longtemps, longtemps.